Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans Grand Bien vous fasse. L'acteur Burt Lancaster affirmait jadis qu'il jugeait un restaurant par son pain et par son café. Cela raconte l'importance fondamentale du pain dans nos civilisations. Le pain qui revêt tellement de dimensions qu'il faudrait 50 émissions pour tenter d'épuiser le sujet. Dans notre pays, c'est la base de notre alimentation. Que serait un jour sans pain pour la plupart d'entre nous? Tartines du petit déjeuner, sandwich du déjeuner, morceaux de pain que l'on trempe dans la sauce qui accompagne un morceau de fromage ou de charcuterie, le pain compagnon de l'ordonnancement de nos repas. Un jour sans pain, la plupart d'entre nous n'y songent même pas. Comment se passer de ce produit authentique, ce morceau vivant de civilisation qui se décline en une infinité de produits, de la baguette à la boule de campagne, en passant par les pains complets, pains demi, briochés, multicéréales, pains à l'épeautre, de seigle, aux noix, avec ou sans gluten. Nous verrons ce matin comment reconnaître un bon pain, quelle est sa symbolique, symbolique de cet aliment qui serait né il y a environ 3000 ans en Égypte. Et puis, quelles sont ses vertus nutritionnelles? Faut-il ou non se priver de pain pour des raisons de santé? Éléments de réponse avec nos invités. Et vous, quel est votre rapport avec le pain? Comment l'aimez-vous? Quelle est sa place dans votre vie? Racontez-nous votre amour du pain, mais également vos déceptions avec ce produit qui ne supporte pas la médiocrité. 01 45 24 7000, sans oublier la note vocale sur l'appli France Inter. Bienvenue dans Grand Main vous fasse, la vie quotidienne mode d'emploi.
France Inter, Ali Rébéi, Grand Bien vous fasse.
J'arrive pour la première fois à Paris, j'avais faim, je rentre dans une boulangerie, j'étais éberlué par cette variété de choses, par les odeurs qui étaient formidables. Je demande un pain qui s'avère être un bâtard, je sors, j'ai mis le pain à la bouche. C'était quelque chose de sismique pour moi. D'abord, il y avait une espèce de rush, il n'y a pas d'autre mot. C'était quelque chose qui m'est entré dedans avec des arômes rétro-nasales de fleurs, de fruits, notamment cerises noires. Il y avait aussi un peu de patates douces. Et j'avais l'impression que j'allais aller comme Alice dans un grand trou, que j'allais pas m'en sortir.
L'historien Steven Kaplan sur France Culture en mars 2020, avec nous pour célébrer les plaisirs et les bienfaits du pain. Marie Astier, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes journaliste à Reporter, le quotidien en ligne consacré à l'écologie, et vous avez publié en Poche et Point, Quel pain voulons-nous? Bonjour Christophe Vasseur.
Bonjour Ali.
Vous êtes artisan boulanger depuis une vingtaine d'années. Votre boulangerie à Paris s'appelle Du pain et des idées, où l'on vient notamment pour votre pain des amis à la hauteur de sa réputation. Vous nous avez apporté une grosse miche ce matin.
C'est ça, il est là.
Faites-la craquer peut-être.
Allez.
Ah, ben là. Voilà.
Mais c'est les odeurs surtout qui sont magnifiques.
Bonjour Alex Roquet.
Bonjour.
Vous êtes artisan boulanger, vous avez fondé la boulangerie Le Fou du Pain à Lille et à Vatigny. Et je n'ai hélas jamais mangé votre pain, mais il est réputé exceptionnel. Bonjour docteur Arnaud Cocolle.
Bonjour Ali.
Vous êtes médecin nutritionniste à Paris. Dernier livre paru, Végétarien sans carence, chez Albin Michel. Bonjour Abdou Gnaba.
Bonjour Ali.
Vous êtes anthropologue, directeur du cabinet Sociolab, et vous avez publié il y a quelques années une anthropologie des mangeurs de pain. Alors Christophe Vasseur, le pain, c'est peut-être l'aliment le plus symbolique de notre alimentation, celui qui recèle peut-être une dimension sacrée.
Ah mais complètement. Enfin là, il faudrait inviter Steve Kaplan pour en parler bien mieux que moi. Vous parliez tout à l'heure, c'est un produit de civilisation, c'est exactement ça. 3000 ans d'histoire, vous le trouvez dans pratiquement tous les peuples sous des formes différentes et certains peuples y ont un attachement qui est viscéral. En France, on a fait la révolution entre autres parce qu'on a manqué de pain, mais regardez dans notre jargon populaire le nombre de dictons triste comme un jour sans pain, bon comme le pain. Oui, le pain est sacré. Là, il faudrait 50 émissions pour qu'on en parle. Attention.
Abdou Gnaba, pour ma grand-mère maternelle, il était inconcevable de jeter du pain. Cette idée lui faisait horreur et ça montre bien ce caractère sacré du pain.
Oui, alors votre grand-mère, c'est exactement comme ma mère, ce qui ne présage rien de notre différence d'âge, même si je reste votre aînée, elle dit. Le pain, c'est une assiette qui se mange. Les Français, dans les 750 Français qu'on a interviewés pour parler du pain, ont tous quelque chose à dire, même ceux qui n'en mangent pas. Les muets du pain n'existent pas. Tout se passe comme si il faisait tellement partie de notre identité que quand on se pose la question, ben, on a du mal à reculer pour se dire, ben, le pain, ben, quoi, le pain, je suis Français, donc je mange du pain. Il est tellement simple qu'il porte en lui une dimension matérielle, on l'a entendu avec le pain de Christophe, et aussi une dimension spirituelle qu'on pourrait décliner justement en parlant de la superstition, du pain du comment s'appelle-t-il ce pauvre celui qui tue les gens, qui coupe les têtes, vous voyez, c'est tellement horrible que son nom m'échappe.
Le bourreau.
Mais si, le pain du bourreau, justement, qui nous impose de ne pas retourner le pain, ou alors le fait de devoir ramasser le pain dans la rue pour pouvoir le donner aux oiseaux, parce qu'il est sacré. Il est sacré depuis que Moïse l'a reçu de Dieu pour nourrir son peuple, il est sacré depuis que c'est le dernier repas du Christ, c'est que son corps, justement, s'est transformé en pain, il est sacré depuis que le pain est le symbole de l'aliment en soi.
Et puis il est vital, hein, quand on se souvient dans l'histoire des grandes révoltes nées du pain, hein, de la Révolution française au printemps arabe, hein, Abdou Gnabah.
Ah oui, alors d'une part, et puis alors vous avez dit qu'il existe depuis 3000 ans, donc 4000 ans chez les Égyptiens, ça c'est le pain levé. Mais on a des traces de pain donc non levé qui ressemblait à des galettes jusqu'à moins 14000 ans si vous êtes en Mésopotamie, donc sur l'actuel Irak. Ce qui fait dire à certains mythologues justement que le pain vient d'ailleurs. En tout cas, il a toujours été présent. Mais ce qui est important dans notre société, c'est qu'il reste le symbole d'une évolution sociale. En gros, tant qu'on peut s'acheter du pain, c'est que ça va à peu près. La Révolution française est née en 1773 et 74, donc bien avant 89, avec ce qu'on a appelé la guerre de la farine. C'est à ce moment-là, justement, que le peuple commence sérieusement à se révolter jusqu'à 1789. Et quand les femmes vont chercher Louis XVI à Versailles, vous savez comment ils ont appelé la famille royale ?
Le mitron.
Ils sont allés chercher le boulanger, la boulangère et le petit mitron.
Marie Astier, pourquoi le pain est-il encore aujourd'hui tellement porteur de sens ?
Bonne question. Parce que justement, il y a toutes ces dimensions historiques, je pense. Il y a ces dimensions quotidiennes, moi, que j'aime beaucoup. Il y a des boulangeries un peu partout, alors de moins en moins, c'est ce que je raconte. Mais il y a ce côté où... sur le chemin, quand on rentre du travail, quand on part le matin, on trouve une boulangerie, on sait qu'on va pouvoir acheter quelque chose à manger de simple, de pas trop cher, de si possible de bon. On va en discuter. Et moi, j'aime beaucoup ce côté où il y en a partout. Et c'est pour ça qu'en tant que journaliste, j'ai trouvé que c'est un objet hyper intéressant à étudier pour parler de notre alimentation plus en général. Voilà, et pour toucher... et puis pour montrer aussi qu'un objet quotidien, enfin un aliment très quotidien, très banal presque, en fait recèle plein de... j'allais dire de secrets, pas forcément de secrets, mais en tout cas, derrière, il y a énormément de métiers, de connaissances, de choses à apprendre sur comment... il est fait, comment fonctionne la filière, etc. Et qu'en fait, mon but, c'était aussi de faire de nous, de donner du sens en faisant de nous des mangeurs de pain avertis. Voilà.
Et vous écrivez ceci, Marie Astier, il y a le pain religieux que l'on bénit, le pain social que l'on met sur la table, le pain politique qui provoque des révoltes, on l'a vu, le pain touristique que l'on porte sous le bras, le pain gastronomique que l'on accommode de mille façons.
Oui, c'est un peu ce que je vous disais. C'était ce côté. Il y en a. Enfin, quand j'ai commencé mon livre, en fait, on ne sait pas trop par où, quelle boule prendre ce pain. C'est comme ça que vous avez commencé votre émission quand vous avez fait votre introduction. Je me suis dit, vous êtes retrouvé un peu comme moi face à ce monde. Mais en fait, ce monde, c'est un monde d'images. Et derrière ces images, il faut aller chercher ce qu'il y a. Et donc, il y a l'image du boulanger artisan qui est le représentant du pain en France. Et derrière ce boulanger, qu'est-ce qui se passe dans son fournil? Qu'est-ce qui se passe chez son meunier? Même des fois, les boulangers ne savent pas ce qui se passe chez leur meunier. Ouais. Et qu'est-ce qui se passe au champ? Quel trajet le blé a fait pour arriver jusque dans notre pain quotidien? Moi, en tout cas, c'est ça qui m'a intéressée. C'est de mettre du sens et surtout de mettre de la connaissance. C'est monsieur Abou Gnabah qui disait ça dans son livre, qu'on met plein d'images, de sens différents, etc., de symbolique. Mais on oublie d'aller regarder un peu concrètement les choses. Et moi, c'est mon côté un peu... J'aime bien regarder concrètement les choses, qu'est-ce qui se passe.
Sur notre attachement au pain, Alex Croquet, Christophe Vasseur, pendant les divers confinements, nous avons fait du pain maison, et puis nous avons continué à fréquenter ces lieux de vie essentiels que sont les boulangeries, Alex Croquet.
Oui, pendant le confinement, on m'a beaucoup appelé pour faire du pain à la maison. Les gens m'écrivaient, je leur apprenais à entretenir un levain, à fabriquer leur pain eux-mêmes. Et c'était assez assez rigolo. Et mais nous, on a pendant le confinement, il s'est passé une chose très très bizarre, c'est que les gens, vu qu'ils avaient plus de temps, je n'ai jamais eu tant de félicitations sur le pain. Je crois qu'ils prenaient, ils avaient un regard, ils avaient le temps de le manger, de l'apprécier. On n'a jamais eu autant de retours. Et je disais à mon épouse qui est au magasin, je pense que c'est vraiment parce que les gens ont plus de temps. Et du coup, ils mangent, ils ont le temps, ils sont moins stressés. Et on a eu un grand retour sur notre travail de pain pendant le confinement. Alors que j'avais rien changé techniquement. J'avais pas, je pense pas que j'ai mieux travaillé pendant le confinement. Mais c'était assez marrant ce retour.
Christophe Vasseur.
Ben, moi, j'étais à Paris, donc ça a été un peu la catastrophe, le confinement. Hein. On a perdu 85% de notre clientèle, parce que tout le monde était parti se confiner en province ou ailleurs. Par contre, j'abonde dans le sens de Alex Croquet sur effectivement ce besoin, je pense, des gens de redonner du sens, de retrouver du temps et de redonner du sens à leur vie en revenant à l'essentiel et s'approprier en fait la technique de fabrication du pain en période qui était très anxiogène comme ce confinement. C'était aussi retrouver de la liberté, cet espace de liberté où vous vous réappropriez votre alimentation et la base de l'alimentation étant le pain, vous fabriquez votre pain, donc vous êtes pas encore autosuffisant, mais en tout cas vous dirigez vers une certaine forme d'autonomie et vous récupérez un espace de liberté, vous êtes moins dépendant et au-delà de ça, le plaisir qu'il y a à s'approprier ça, parce que c'est éminemment technique, mais en même temps c'est aussi simple, il faut avoir les bons tours de main et je trouve que c'était une très très belle démarche, j'espère qu'on va continuer là-dessus.
Marie-Estier.
Oui, en fait, moi je trouve ça super ce que dit Monsieur Croquet. Les gens, en fait, ils ont pris le temps de savourer. Et c'est très très important. Moi, je me suis rendu compte qu'en fait, je ne faisais pas assez attention au goût du pain, parce que c'est un aliment support. On va faire attention à ce qu'on met dessus. Voilà, on va nous donner des conseils nutritionnels sur ce qu'on met dessus. Mais finalement, sur le pain lui-même, on réfléchit jamais assez à est-ce que ce pain, quand je le goûte, qu'est-ce que je pense de sa mie, qu'est-ce que je pense de sa croûte, et ça, moi, j'ai beaucoup aimé faire attention à ça, me rendre compte, faire des dégustations avec plein de baguettes différentes, donc un pain a priori qui a pas énormément de goût, qui est vraiment le pain support par excellence, me rendre compte que en fait, je pouvais à des gens qui s'étaient jamais posé la question leur faire réaliser que il y avait une infinité de variétés d'une baguette à l'autre, et je trouve que à partir de ce moment de plaisir et d'attention à ce que l'on mange, on peut ensuite se poser plein de bonnes questions et augmenter le plaisir à la fin.
Le regard du médecin nutritionniste Arnaud Cocolle.
Je ne peux qu'adhérer à ça, puis merci de m'avoir invité justement dans cette émission plaisir, parce que c'est le plaisir alimentaire avant tout, c'est ce que j'essaye de prôner à mes patients. Les gens sont perdus, et lors du confinement, je pense qu'il y a eu une réadhésion en fait au bien manger, c'est-à-dire que les gens, d'un seul coup, ont redécouvert effectivement ces plaisirs, c'est-à-dire qu'ils ont vu qu'il y avait des choses essentielles, des choses fondamentales, et c'est-à-dire il faut du goût. Parce que la vie, sinon, elle a pas de goût, justement. Donc, il faut donner du sel un petit peu à notre vie, et ça passe par l'alimentation et ce plaisir-là. Et quand vous avez des gens qui sont en perdition alimentaire, c'est là où ils rentrent dans les troubles du comportement alimentaire. Quelqu'un qui n'a pas de troubles du comportement alimentaire, c'est quelqu'un qui savoure en fait son alimentation. Et ça, je pense qu'actuellement, il faut réapprivoiser un petit peu nos goûts et nos cinq sens.
Alors, Christophe Vasseur, pour vous, le pain, ce n'est pas juste de l'eau, de la farine, du sel et du levain. Pour vous, ce qui fait lever le pain, ce qui le rend vivant, lui donne son goût unique, c'est l'amour qu'on y met et la part de soi que l'on y consacre.
C'est très juste, c'est la part de l'invisible. Non, mais il y a ça, et puis il y a heureusement dans la farine que vous utilisez des ferments sauvages, la qualité du blé, la qualité des semences qu'on a plantées. Faut pas oublier, justement, Marie essaye de l'expliquer, le pain c'est le produit fini que vous avez sur votre table, que vous avez acheté chez le boulanger. Avant ça, vous aviez le boulanger qui l'a transformé, son tour de main a sublimé cette matière première. Avant ça, vous avez un meunier qui a écrasé des blés, qui a fait des assemblages pour avoir justement un mélange avec une certaine plateforme plasticité, une certaine palette aromatique. Avant ça, vous avez un cultivateur à qui qui a acheté des semences et qui les a cultivées d'une certaine façon, la plus noble, la plus vertueuse possible, pour justement donner le meilleur de ces semences. Et avant ça, donc cinquième point, vous avez le semencier. Donc on cultive pas n'importe quelle semence, n'importe où. Malheureusement, c'est ce que l'agriculture intensive a tendance à faire, c'est que les blés qui sont cultivés aujourd'hui pour faire du pain sont des blés modernes, hybridés, c'est-à-dire que ce sont des brevets qui sont déposés, des variétés modernes, alors fort rendement, très bien, ça résiste aux ravageurs, aux insectes, et ce que vous voulez, mais le goût, la nutrition, là, elle passe un peu sur le plan secondaire. Mais si vous avez un artisan, effectivement, qui s'intéresse à toute la filière, donc semences, méthode de culture, méthode de mouture, le meunier, et enfin qui adopte un tour de main beaucoup plus respectueux de ce vivant, de ce que j'appelle cette part d'invisible, c'est-à-dire ces micro-champignons qui vont s'exprimer au contact de l'eau tiède et avec le levain ou la levure, et vous allez révéler tout ça un peu comme un animal sauvage que vous apprivoisez, que jamais vous domptez. C'est pour ça que le pain subit aussi des variations de goût, de texture, en fonction de la météo, en fonction de l'humeur aussi du boulanger. Quand je vous disais vous mettez de l'amour, le pain c'est de l'amour en mie, c'est ça. Ouais.
Vous êtes d'accord avec ça, Alex Croquet ?
Ah oui, tout à fait, tout à fait. Ben, vous savez que je dis toujours le pain, c'est un polymère semi-cristallin, donc c'est une éponge et il reçoit son environnement. Donc tout ce qu'il reçoit, il transmet. Quand on parlait de bonne humeur faire le pain, les conditions d'atelier, vous savez, les vieux boulangers, ils disaient quand on rentre dans un atelier, si ça ressemble à, il y a un côté chaleureux dans l'atelier, doux, cocooning, ben on fera du bon pain. Un atelier plein de courant d'air, les vieux boulangers disent tu feras pas du bon pain. Et c'est des réflexions simples, mais je trouve plein de bon sens, parce que le pain, il aime bien avoir du confort, comme un enfant qui vient de naître. On le pouponne, on le protège des courants d'air, et le pain, c'est, il y a cette réactivité, c'est-à-dire que s'il y a un courant d'air, il s'enrhume, et vous allez voir le pain à la sortie du four. Quand je dis qu'il s'enrhume, c'est il y a plein un coup de froid, et vous allez avoir un nœud, vous allez avoir un manque d'expression. Donc ça prouve bien que le pain, il reçoit son environnement, et le pain est une éponge.
Alors, question d'une simplicité biblique, pourquoi aimez-vous le pain, Abdou Gnaba ?
Justement parce qu'il est simple, et que c'est un aliment alchimique. J'ai écouté nos brillants artisans parler de leur tour de main et de l'intention qu'ils mettaient dedans. Et ben c'est justement ça. Le pain nous rappelle que quand on mange de la culture. C'est l'anthropologue qui parle, c'est Lévi-Strauss qui l'a systématisé. On mange de la culture et la nourriture d'un peuple, eh ben c'est sa langue. Le pain, on est né avec et on l'aime justement parce qu'il y a un tour, comme un tour de magie, il y a quelque chose qui est mis dedans, dans ces trois aliments qui nous rappellent les trois aliments vitaux du monde, l'explication du monde, le corpus, l'animus, le spiritus. Donc vous avez la matière elle-même, hop, il y a le levé, c'est l'animus, et le spiritus, ben c'est tout l'environnement, c'est tout l'esprit qui a été mis dedans. J'aime le pain parce qu'il est magique.
Et vous, Christophe Vasseur, pourquoi vous vous êtes reconverti il y a une vingtaine d'années en artisan boulanger ? Quel a été le moteur, la flamme ?
Alors, il y a plusieurs choses. Il y a le fait d'avoir des parents médecins et depuis tout petit d'avoir été fasciné par ces parents qui guérissaient les gens. Alors bon, je m'appelle peut-être aussi Christophe. Il y a un côté christique dans tout ça, mais non, être porté par le besoin de trouver ma place au travers d'un produit simple, sain et qui accessible à tous et de donner du bon, du bien aux gens. En fait, de me rendre utile au travers ça. C'est pas plus compliqué que ça.
Et vous, Alex Croquet, pourquoi êtes-vous devenu artisan boulanger ?
Alors moi, le paradoxe, c'est moi, j'étais très pâtissier. J'ai fait une maîtrise de pâtisserie. Quand je me suis installé, je pensais qu'à faire des gâteaux démonstratifs, des pièces sans sucre qui faisaient 2 mètres de haut sur 3 mètres de large. Et le pain, je le faisais d'une façon, je trouvais ça un peu pas intéressant, trop répétitif, la farine, de l'eau, de la fermentation. Et j'avais un côté péjoratif, honnêtement. Et je venais de former mon maître pâtissier. Et mon boulanger s'installe et je prends le poste de boulanger dans mon atelier. Et je fais mon premier levain. Et là, je vais rejoindre Christophe, ce qu'il disait tout à l'heure. Le premier levain, c'est fascinant. On est inquiet. C'est comme si on adoptait un animal à la maison qu'on ne connaît pas. Enfin, et j'ai été attrapé par le levain. Et là, j'ai abandonné un peu la pâtisserie très pâtissière dans mon atelier pour me consacrer au pain. Parce que j'avais un manque de place. Et ça continue, c'est-à-dire récemment je me suis acheté un moulin, ça fait à peine un an, donc là je suis dans une nouvelle expérimentation d'écraser une grande partie de mes farines, voilà, donc et ça fait donc maintenant 25 ans que je suis en boulangerie, et je découvre encore, j'ouvre des nouvelles portes tous les jours. C'est infini.
Allez, dans un instant, on s'intéresse aux bienfaits du pain, à ses qualités nutritionnelles. Nous verrons également comment reconnaître un bon pain. Ce sera juste après The Four Tops, It's the Same Old Song, à 10h25. Tops, interprété It's the Same Old Song.
Grand bien vous fasse. Ali Rebéi.
Là, il faut travailler le pain. C'est pas en dormant qu'on fait du pain.
Sur France Inter.
Et la bonne farine.
Et on s'intéresse ce matin au plaisir et aux bienfaits du pain. N'hésitez pas à nous raconter votre plaisir au 01 45 24 7000 ou en laissant une note vocale sur l'appli France Inter. Écoutons à nouveau l'historien Steven Kaplan.
Il y a 6 critères majeurs. L'aspect, il faut que ça évoque ou provoque une espèce de concupiscence visuelle. 80% de nos entrées sensorielles sont par les yeux. Le pain sollicite tous les sens. Donc d'abord l'aspect, deuxièmement la croûte. Il faut que la croûte soit croustillante, donc un pain qui est correctement cuit. J'en ai marre d'entendre dire un pain pas trop cuit. Pour arriver à son apogée sensorielle, il faut une croûte caramélisée et il faut une bonne mie. Et il faut un échange d'arômes entre les deux. Troisième critère, la mie. La mie, donc, dégage des arômes. Ça, c'est un autre critère. Les arômes doivent être forts, intenses et variés. Et puis, ils doivent se traduire par les saveurs en bouche. Première entrée en bouche qui n'est pas agressif. Et puis, les critères régaliens d'arômes et de saveur ou de goût.
L'historien Steven Kaplan sur France Culture en février 2020. Alors on l'entend, hein, le pain excite tous nos sens. C'est sensuel de déguster du pain, Abdou Gnaba. Hein.
Oui, bah,
je rappelle que vous êtes anthropologue.
Oui, et qu'on a mené une très grosse enquête sur le rapport des Français avec le pain. Et justement, on a aussi noté le bruit du pain, et vous avez commencé merveilleusement l'émission avec ce bruit du pain.
Christophe Vasseur va nous faire écouter à nouveau ce bruit,
oui, s'il vous plaît.
Magnifique. Voilà, ça fait du bien. Abdou Gnaba. Voilà.
Et vous voyez toutes les évocations que ça provoque. Donc le pain est un support à image, est un support à symbole. Et ce qui est amusant, c'est aussi que il est frais quand il est chaud. Mmh. Voilà. Le pain, c'est peut-être le seul critère capable de fédérer la quasi-totalité des personnes. Quand le pain est frais, ben il est chaud.
Quoi de plus divin que l'odeur du pain qui sort du four? Faustine nous écrit: le pain pour moi, c'est l'odeur de mon enfance, les repas chez mes grands-parents à la campagne, la pièce que me donnait ma grand-mère pour aller acheter le pain frais. Le pain, c'est un mélange de souvenirs merveilleux, rempli d'amour. Christophe Vasseur, je rappelle que vous êtes artisan boulanger à Paris.
Mais cette demoiselle a tout dit. Moi, le plus bel hommage que j'ai reçu, c'est justement quelqu'un qui était venu à la boutique par hasard et qui est revenu quelques jours après en disant: vous avez ressuscité mon grand-père. Il avait vu la dernière fois son grand-père vivant alors qu'il était en culotte courte. Là, il devait bien avoir 80 balais. Et effectivement, en rapportant un bout de pain de chez moi, il l'a ouvert sur la table. En fait, ça a réveillé tous ses souvenirs, tous ses sens. C'est-à-dire qu'il a retrouvé les odeurs du fournil, l'arôme du pain, a littéralement ressuscité son grand-père. Et je trouve que la puissance, justement, dans l'alimentation, la magie, c'est aussi ça. C'est au travers juste d'un coup de fourchette ou d'un croûton de pain, ben, vous transportez dans le temps et vous ressuscitez tout, le moment, les événements, les gens. C'est fabuleux.
Alex Croquet, artisan boulanger à Lille, quel est le sens qui est le plus excité chez vous avec le pain?
Ah, le sens le plus excité. Alors c'est le nez, c'est comme le vin. Enfin, je trouve que le pain, on dit ça doit frapper à la porte avant d'entrer, comme un grand vin. Et moi, c'est le nez quand j'écrase un peu le pain ou quand je l'ouvre en deux, en gardant la masse du pain, pas la tartine, et que j'appuie dessus. Et du coup, dans les couloirs du pain, les petits trous, on fait circuler de l'air. Et là, on attrape tous les parfums. Et j'avais lu dans un livre il y a très longtemps qu'on avait référencé plus de 200 parfums volatiles dans le pain, encore plus que dans le vin. Mais vu qu'il y en a tellement, ils se donnent la main, et donc c'est dur, il y a des fois à les isoler, à dire tiens, je sens tel parfum. Mais c'est très complexe, le parfum du pain. Et aussi, dans le regard du pain, ce que j'explique aux gens, c'est que nous, on est le pays de la faluge, dans le Nord, c'est un pain tout blanc. Mmh. Et donc, c'est moins complexe. Et les couleurs du pain, c'est important, parce que chaque couleur est un regard, chaque couleur est un toucher, chaque couleur est un goût, chaque couleur est un parfum.
Marie Astier, comment reconnaître un bon pain? Vous écrivez dans Quel pain voulons-nous que la complexité des phénomènes rend difficile la définition du bon pain. Vous écrivez même qu'un pain au levain ou un pain complet ne sont pas une garantie de goût et de santé. J'étais un peu étonnée de lire ça, Marie Astier.
Je pense qu'en fait, si on veut un concept un peu simple à se rappeler pour rechercher le bon pain, c'est de chercher du pain vivant. Alors, qu'est-ce que ça veut dire du pain vivant? Ça veut dire un pain où tous ces petits micro-organismes, ces petites levures, ces petites bactéries du levain, elles ont pu se développer, elles ont pu faire leur fermentation. C'est aussi, pour qu'elles puissent faire ça, ben il faut une farine, s'il vous plaît, sans améliorant. Parce que si on met des améliorants, si on met des additifs, etc., ben ça artificialise la fermentation et en fait
ça tue le pain.
Ben je sais pas si ça le tue, mais en tout cas ça contrôle la fermentation et ça empêche finalement le développement de tous ces petits micro-organismes qui sont ceux qui font la diversité des saveurs, qui crée cette complexité des goûts, ce plaisir, etc., la texture aussi, et ensuite, pour avoir une farine vivante, c'est une farine où il y a ces petits micro-organismes à la base, donc c'est une farine à partir d'un blé vivant, donc ça veut dire un blé qu'on n'a pas traité de partout en éliminant finalement toute cette diversité invisible, et si possible aussi un blé vivant, parce que c'est pas un blé normé, standardisé, mais c'est un blé qui vit avec l'endroit où il est cultivé.
Christophe Vasseur.
Ah bah, j'abonde complètement. Si vous voulez, le pain, pour qu'il soit bon, il faut qu'il y ait une matière première noble, premier point essentiel, première matière noble, donc un blé qui n'a pas connu la chimie de synthèse à aucun moment, ni au travers d'engrais, de pesticides ou quoi que ce soit, une variété si possible ancienne, donc adaptée à un terroir qui a été cultivé avec amour, une fois de plus. Et après ça, effectivement, c'est le temps qui est fondamental. Pour que ces micro-organismes se réveillent, c'est pas en 2 ou 3 heures, tout le drame, il est là aujourd'hui, si vous voulez, c'est que la filière pain aujourd'hui, c'est un constat où vous avez une matière première qui vaut pas grand-chose, avec un tour de main qu'on a réduit à 2 heures. Et en 2 heures, c'est comme un vigneron à qui vous dites, voilà, vous allez maintenant votre vin directement sorti du tonneau. Vous n'avez même pas laissé vieillir. Donc en fait, c'est un vin nouveau. Bah, le pain, c'est la même chose. Le pain, pardonnez-moi, pour qu'il exprime des goûts et qu'il soit sain, c'est-à-dire digeste et sucre lent, c'est au moins 12 à 24 heures de fermentation. Or, aujourd'hui, toutes les recettes sont sur 2 heures, tous les savoir-faire sont sur 2 heures. Donc, vous avez un pain indigeste, sucre rapide et pas bon.
Et récemment, j'ai mangé un très mauvais pain sur un tournage télé, une baguette blanche, molle, à la mie très dense, étouffante, absolument horrible. Et quand on mâchait, on avait l'impression de ressentir le goût des améliorants, des additifs. C'était peut-être le fruit de mon imagination. Mais je me demande comment on peut vendre de tels pains, très honnêtement.
Ah, mais on l'a fait pendant des générations, non, mais pendant des décennies. Rappelez-vous, à partir des années 50, enfin, sortie de la guerre, on voulait la mode, c'était un pain blanc qui était même enrichi avec de la farine de fève. C'est là qu'on a inventé le pétrissage intensif, c'est-à-dire qu'on s'est mis à surpétrir la pâte pour l'oxyder, pour la blanchir, utiliser effectivement toute une batterie d'améliorants de panification qui permettent d'aller plus vite, d'avoir une pâte qui est plus régulière. Vous êtes plus dépendant de la météo. Il faut savoir que animal vivant, la farine, effectivement, s'il pleut ou s'il fait sec, vous adoptez votre recette. Pas là, en fait, vous posez plus de questions. Vous êtes un exécutant et vous n'êtes plus un artisan pour moi. Et c'est ça le drame, c'est qu'il faut réapprendre, se réapproprier ces techniques pour remettre du sens dans ce qu'on fait et prendre le temps, 24 heures pour faire une pâte, minima, à minima.
Alex Roquet, Jean-Marc nous écrit ceci: je suis effaré du manque de qualité générale des pains de boulanger de quartier. Pas de goût, pas d'arôme dans la boulangerie. Les clients demandent même un pain non cuit. Quelle hérésie!
Alors nous, c'est le problème aussi. Moi, dans le Nord, les gens, ils aiment le pain coupé. Et je disais le pain blanc, on a une culture du pain coupé, du pain blanc. Et moi, pour éduquer les gens, maintenant on est tout en bio depuis plus de 20 ans, et pur le vin, mais ça a été long, j'ai perdu des gens. Tous les gens qui sont habitués à du pain sans âme, consensuel, sans intérêt, ils viennent plus chez moi. Et d'ailleurs, on dit chez Croquet, il y a une vraie croûte, faut avoir des bonnes dents, mais c'est pas grave. Mais le levain aussi, l'intérêt du levain, c'est que dans la richesse de la vie, dans le pain qui existe, il y a, que ce soit au niveau de la céréale ou du levain, ça crée un pH bas, entre 4 et 5, 2 et 5. Et c'est là que les enzymes, comme la phytase, il peut empêcher l'acide phytique qui est présent dans toutes les céréales de déminéraliser le pain. Du coup, on reçoit pas les minéraux du pain. C'est ça l'intérêt du levain. Aussi, la protéase. La protéase ne peut agir que sur un temps de fermentation très long. Et la protéase, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va dégrader la protéine. Et la protéine, c'est le gluten. Et du coup, quand vous mangez le pain, la première digestion, c'est la fermentation. La deuxième digestion, c'est la salive. Et la troisième, c'est la microbiote intestinale. D'où l'intérêt, comme disait Christophe Vasseur, de faire des longues fermentations avec un pH.
Et puis, docteur Arnaud Cocolle, le bon pain se reconnaît aussi à la longue mâche. Quand on le mastique longtemps, tous les arômes qui se révèlent avec ce mélange de salive, d'enzymes, du pain, c'est quand on le mâche longtemps qu'on découvre ce qu'est un bon pain.
Ah, c'est essentiel, la mastication. Donc déjà, je salue le collègue artisan boulanger qui est médecin également, hein, parce que là, ce qu'il a dit, c'est très juste au point de vue médical. Et la mastication est fondamentale, ce qui vient d'être appelé. C'est au niveau de la bouche qu'on commence en fait à broyer les aliments et donc à révéler un petit peu nos saveurs. Donc il y a eu l'odorat avant évidemment, mais cette mastication est malheureusement gommée par beaucoup de patients qui ont tendance à se précipiter vers des aliments trop mous. Donc ils déglutissent trop rapidement et également l'état dentaire malheureusement de beaucoup de Français qui est problématique et qui fait qu'ils n'arrivent pas à mastiquer au maximum de leur potentiel. Dès que vous avez une dent en moins, il faut savoir que ça empiète de 10% de votre coefficient de mastication. Donc et après, pour préparer le tube digestif à l'arrivée des nutriments et entretenir notre microbiote intestinal qui est vraiment fondamental justement on va nourrir notre flore digestive grâce au pain entre autres.
Christophe Vasseur, vos conseils pour choisir un bon pain au premier coup d'œil?
Ben, je rejoins complètement Steve Kaplan, la couleur, vos yeux. Hein. Un bon pain, c'est un pain qui est coloré, couleur acajou. Il doit surtout pas être clair. C'est très mauvais signe s'il est blanc et pas cuit. Le deuxième point, c'est quand vous l'aurez en main, la densité. Un pain qui est bon, qui est sain, il est lourd. Il n'est pas fait juste avec de l'air, avec beaucoup de levure. Et en fait, le troisième point, c'est là quand vous l'aurez payé, vous allez le goûter. Il doit effectivement vous exploser au palais et surtout, il doit se digérer. Le pain qui vous reste sur dans l'estomac la demi-journée, c'est pas bon signe. C'est oublié. Et c'est aussi le paradoxe, c'est que chercher des labels à dire, voilà, je vais acheter que en bio et comme ça, je suis sûr d'avoir un pain qui sera meilleur. Il sera plus sain, certes, mais il sera pas forcément meilleur en goût. Et là, fiez-vous, vous, à vos papilles.
Marie Astier.
Je voulais juste ajouter quelque chose sur la mâche. En fait, moi, ça me semble super important de souligner ça parce qu'en fait, on est habitué à des aliments de plus en plus mous.
Tout à fait.
Et même en discutant, avec des dames qui travaillent avec les enfants, etc., elles me racontaient que les enfants, en fait, de plus en plus tard, on leur donne des aliments durs. Donc, en fait, il y a un problème même presque de développement de la mâchoire. Alors, voilà. Et donc, je trouve que c'est hyper important de sortir du pain mou, du pain de mie, du pain industriel, sans croûte, etc., pour réapprendre à prendre le temps de manger, de mâcher, de savourer, etc. Parce que c'est ça aussi qui fait la différence et qui nous permet de sortir de la nourriture industrielle, quoi.
Je sens qu'on va bien le mâcher, votre pain des amis.
Ah bah oui, il est pas là pour la déco.
Docteur Cocolle.
Oui, c'est fondamental. Nous sommes une génération actuellement qui perdons nos dents. Nous avons de moins en moins d'espace dentaire et nous avons notre surface osseuse, le mandibule supérieur, qui a tendance à régresser par rapport à nos ancêtres, ce que Pascal Pic a mis en évidence justement dans ses travaux. Et donc, il faut revenir vers une alimentation plus coriace, je suis entièrement d'accord. C'est pour ça qu'il faut réhabiliter vraiment des pains comme ça, qui soient avec des mies croustillantes, etc., qui obligent à mastication.
Alain nous écrit « Le pain est essentiel dans ma vie. Mon pain quotidien me donne un plaisir unique. Il sublime le goût des choses. En bouche, il a la capacité de me rendre heureux. Je le mange avec les pâtes. Même avec les pâtes, c'est un bonheur. Et de plus, c'est un lien permanent avec nos anciens. »
Juste à côté de son fournil, il cultive ses propres blés. Des variétés anciennes, un blé abandonné par l'industrie, pas assez productif.
Il faut prendre son temps pour suivre le blé et ne pas lui demander ce qu'il ne peut pas faire.
Pour Jean-François Berthelot, l'émergence d'une intolérance au gluten dans tout le monde occidental est un signal. Ce paysan s'interroge.
On produit du blé parce que on pense qu'il nourrit bien, on pense qu'il va faire un bon pain. Mais si on s'aperçoit que de plus en plus de gens ne le digèrent pas bien ou se portent mieux sans manger, c'est donc que nous sommes dans l'erreur, quoi. Qu'il faut chercher au moins ailleurs, explorer autre chose, quoi. Et ces variétés-là sont un véritable espoir, hein, parce que moi, je suis toujours persuadé que le blé n'est pas mauvais en soi, ni le gluten n'est pas mauvais en soi. C'est seulement les blés d'aujourd'hui et la présence d'un certain gluten dans les blés d'aujourd'hui qui fait que finalement, c'est pas très très bon pour le corps humain, quoi.
Et on vient d'écouter le paysan boulanger Jean-François Berthelot dans Enquête exclusive sur M6 en 2020. Marie Astier, sur ce que nous dit Jean-François Berthelot.
Eh ben, c'est très important et en fait, il faut rendre ça aux paysans boulangers, aux premiers artisans du bio, etc., qui ont redécouvert ces blés. Alors on dit anciens, maintenant on peut même dire blés paysans, parce que maintenant qu'ils sont recultivés, ils sont plus anciens, ils sont d'aujourd'hui et réadaptés par les paysans d'aujourd'hui. Et en fait, ce qu'il dit sur le gluten, c'est un peu eux qui l'ont explicité aussi, c'est que il y a plein de types de gluten. Et en fait, les blés qu'on sélectionne, les blés conventionnels qui font 99% du marché aujourd'hui, c'est des blés qui sont sélectionnés pour avoir des gluten tenaces en grande quantité. Pourquoi ? Parce que la moitié de notre blé est exporté et plus il y a des protéines, plus il y a de gluten dedans, plus il est payé cher, tout simplement. Et ensuite, l'autre raison pourquoi on veut des gluten tenaces, c'est pour avoir des pains qui vont résister à la congélation, à la mise en chambre froide. Parce que tout à l'heure, on parlait de fermentation, mais des fois, on nous dit 24 heures de fermentation, mais à 4 degrés, les micro-organismes, ils vivent pas. Enfin, ils se développent pas. Donc, on va me corriger.
Christophe Vasseur.
On est dans des chambres très froides et, bref. En tout cas, la chose importante, c'est qu'on essaye de créer des gluten qui sont adaptés aux besoins de l'industrie. Or, les gluten de ces blés paysans, c'est des gluten qui seraient très très mal notés. On dirait, mais votre blé n'est pas planifiable à ces paysans-là, et pourtant, ils font un excellent pain avec.
Le pain à base de blé ou d'épeautre est donc souvent accusé de tous les maux, ce pain qui contient du gluten. Le gluten qu'il contient disposerait de plus en plus de consommateurs, hein, docteur Arnaud Cocol. Alors je ne parle pas des personnes atteintes de la maladie cœliaque, hein. La maladie cœliaque, c'est une maladie auto-immune induite par la consommation de gluten, c'est une maladie chronique. Mais il y a de plus en plus de Français qui se disent hypersensibles au gluten. Comment expliquer cette hypersensibilité ? Marie Assier a donné une partie de la réponse.
Oui, Marie Assier vient de donner la grande partie de la réponse, c'est-à-dire cette sélection de blé qui a été faite par les industriels et qui pose des problèmes avec un gluten de plus en plus résistant. Alors il faut savoir aussi qu'il y a des gens qui sont sensibles à des particules, c'est pas forcément le gluten, ça peut être ce qu'on appelle les profilines ou les agglutinines, etc.
Donc, ou certains sucres, les FODMAPs.
Oui, alors c'est encore autre chose, ça. Ouais. Mais il y a cette sensibilité effectivement accrue actuellement. Donc il y a des gens sur lesquels il faut écouter un petit peu leurs symptômes, c'est-à-dire ils se plaignent des douleurs, vraiment des désagréments pénibles. Et ces gens-là, il faut non pas leur interdire le gluten, mais leur apprendre à avoir une consommation qui soit plus raisonnée et plus raisonnable et plus personnalisée. Et je pense qu'il faut venir vers cette médecine personnalisée, c'est-à-dire la nutrition personnalisée.
Mais à Marie Astier, ces hypersensibles au gluten ne sont-ils pas également, ou plutôt hypersensibles aux additifs et pesticides présents dans les farines ?
C'est possible. En tout cas, quand j'avais cherché, il y a énormément d'allergies chez les boulangers et j'avais trouvé une étude qui dit qu'un quart des asthmes du boulanger est dû notamment alors aux enzymes artificielles qu'on rajoute dans la farine. Donc ça, c'est des spécialistes qui le disent. Voilà. Après, pour ces histoires de gluten, il y a vraiment trop de gluten à la base, trop tenace et pas assez prédigéré. C'est tout le travail qui est fait par les boulangers après.
Christophe Vasseur.
Ouais, je rectifie à 4 degrés. Effectivement, vous avez quand même des choses qui se passent dans une pâte. C'est quand vous êtes en froid négatif en dessous de zéro. Mais c'est comme un vin, vous le mettez en cave, ça descend à 12 degrés. Il se passe encore plein de choses et heureusement, c'est la beauté de la fermentation. Je reviens au gluten. Marie l'a très bien expliqué. Le problème, c'est qu'à force de vouloir des pâtes en fait qui se mécanisent à outrance et qui tolèrent tout, donc le process ultra rapide de 2 heures, voire d'une chaîne industrielle, ben on a fait de la pâte à modeler. Donc on a demandé des blés pour pâte à modeler. Mais ces blés sont très indigestes. Or, si vous travaillez sur des blés anciens, en tout cas cultivés en bio, et que vous laissez le temps à la fermentation de digérer tout ça, et qui en plus sont exempts d'améliorants et de pesticides, comme par hasard, les gens qui se disent hypersensibles, ben, digèrent sans problème.
Et Arnaud Cocol, vous êtes d'accord avec ça?
Je ne peux qu'abonder dans ça. Je pense qu'il faut, moi en tant que médecin, il faut aller vers la nutri-écologie. C'est Christian Hémézy qui a mis ça en avant. Et la nutri-écologie, c'est important, c'est-à-dire ce lien entre vraiment l'écologie et penser que l'écologie, ça commence par soi-même. Alors, donc c'est bien manger.
Docteur Arnaud Cocol, le pain est-il bon pour la santé? Quelles sont les valeurs nutritionnelles d'un pain de qualité?
Un pain de qualité, déjà, ça va vous rassasier parce qu'il va être avec des fibres. Donc même le pain blanc, d'ailleurs, contient des fibres, hein, quoi qu'on en pense. Mais le pain complet contient le double en fibres. Donc ça participe à l'amélioration de l'apport en fibres qui est insuffisant chez les Français et ça permet de lutter contre les cancers comme le cancer du côlon. Donc ça, vous avez tout intérêt à avoir un maximum de fibres dans votre alimentation et le pain est vraiment l'un des acteurs fondamentaux de ça. Sinon, ces fibres vont améliorer la satiété, donc ça vous évite de grignoter également. Après, on parle de l'index glycémique. Moi, cet index glycémique, j'en ai un petit peu ras-le-bol, parce qu'on mange pas de l'index glycémique. Donc l'index glycémique, on met tout à travers avec ça. On mange en fait une quantité, donc c'est la charge glycémique qui est plus importante. Vous pouvez manger un index glycémique qui est élevé, mais si vous en prenez très peu, ça n'aura pas d'incidence vraiment. Et ça dépend de l'accompagnement à côté. Si vous prenez des graisses, etc., qui vont ralentir la vidange gastrique, etc. Donc l'index glycémique, ça veut tout dire et rien dire. On fait n'importe quoi avec ça. C'est la quantité qu'on mange. Donc c'est les portions. Donc il faut une juste portion raisonnée. Après, l'autre problème du pain aussi, c'est le sel.
Oui, le sel. On a beaucoup de questions dans ce sens-là.
Voilà, parce que le sel, vous savez que, bon, là, je crois que sous le couvert de Christophe Vasseur, c'est 15 grammes de sel pour 1 kilo de pain fini.
18 grammes. Ce qui a été préconisé par le syndicat. 18.
Voilà. Alors, je pense qu'on peut améliorer des choses en faisant des mélanges salins, c'est-à-dire qu'il faut effectivement diminuer la teneur en sodium, peut-être, mais améliorer l'enrichissement en potassium. L'enrichissement en potassium, c'est très important pour les maladies cardiovasculaires. Nous ne consommons pas suffisamment de potassium. Donc on pourrait rajouter en fait un petit peu du chlorure de potassium, des choses comme ça, et également du magnésium, des choses comme ça, ou du calcium. Ça peut être amélioré dans le pain.
Un ami me disait que pour maigrir, il avait arrêté de manger du pain. A-t-il eu raison ? A-t-il raison ?
Dans l'absolu, tout fait grossir. Hein, si on veut continuer comme ça, il n'y a que l'eau qui fait pas grossir. Mais non, je veux dire, je pense pas qu'il ait forcément raison. Alors s'il a arrêté le mauvais pain, c'est-à-dire le pain industriel, oui, il a eu raison. Si par contre, il a pas pris le pain de Christophe Vasseur ou
d'Alex Croquet,
je veux dire, c'est peut-être regrettable et il passe peut-être à côté d'une part de culture et de poésie.
Tiens, avant d'écouter le disque, quel est le meilleur pain que vous ayez mangé, celui qui vous a procuré une émotion exceptionnelle. Marie Astier, vous qui avez enquêté
et qui avez
goûté beaucoup de pain.
C'est celui que j'ai fabriqué, j'ai fait des stages avec des paysans boulangers, on était un petit groupe et on a passé la journée à le fabriquer, avoir les mains dans ses pâtes, c'était merveilleux, donc je pense que c'est celui-là, parce que c'est le plaisir à la fin.
Abdoul Naba.
Ouais, ben on parle peut-être du même paysan boulanger s'il est près d'Annecy, vu en cuisasse, je sais pas comment on le dit, Paul Rocher, parce qu'il travaille aussi la pâte avec sa psychologue, Maxime Newman, et ils font venir des détenus ou des gens qui sont en réinsertion, justement, pour leur apprendre à gérer la violence et le rapport à l'autre à travers la pâte. Sinon, gustativement, je suis obligé de citer le quartier du Safranier à Antibes et mon ami Jean-Paul Védien, donc il fait une pâte.
Rappelez son nom à Antibes, pour ceux qui habitent là.
Véziano, le quartier du Safranier à Antibes.
Et voir nos cocoles.
Moi, c'était un pain épeautre. J'aime beaucoup l'épeautre dans les pains. Donc voilà. Puis peut-être une baguette, mais qui n'existe plus, que j'ai pu avoir dans mon enfance, bien croquante, bien chaude, dans le Pays Basque.
Je poserai la question à le boulanger juste après le disque. On écoute Vendredi sur mer qui interprète Le Lac à 10h51. Vendredi sur mer, interprété Le Lac.
France Inter. Grand bien vous fasse. Ali Rébéi.
Et on s'intéresse ce matin au plaisir et aux bienfaits du pain. Et Laëtte qui nous écrit sur Facebook, quel plaisir d'écouter votre émission. Tout en cuisant mon pain au levain, mon levain sauvage que j'appelle Francky. Il a 2 ans et c'est toujours aussi magique de le nourrir régulièrement et d'observer son cycle et ses bubules faire son pain, mais aussi brioche et pâte à pizza. Et nous accueillons Muriel. Bonjour Muriel. Bonjour Muriel, vous appelez de Koffenheim. Muriel, est-ce qu'on... Ah non, mais parce que vous êtes en train de faire votre pain, vous êtes peut-être au four, on va essayer de vous récupérer Muriel. Quel plaisir hein, de faire son pain maison tout de même. Christophe Vasseur, Alex Croquet, je rappelle que vous êtes tous les deux artisans boulangers. Quel bonheur de faire son pain maison.
Moi, ça fait 20 ans que ça dure, hein, l'aventure. Je suis autodidacte. Enfin, je voulais faire ça depuis tout petit, puis j'ai renoncé. Puis finalement, j'y suis allé à l'âge christique de 33 ans. Et oui, je peux vous dire, plus de 20 ans plus tard, c'est toujours avec le même bonheur que je caresse cet animal.
Quels sont vos conseils pour faire un bon pain ménager, un bon pain maison, en sachant que nos fours n'égaleront jamais vos fours professionnels, sauf si on a la chance d'avoir chez soi un four à pain, un four à bois.
Alors, premier
vraiment,
point...
les erreurs à ne pas faire, et si on veut faire un bon pain ménager.
Alors, premier point essentiel, l'environnement. Vous devez être le plus détendu possible. Pas de stress, pas de conflit dans une pièce où vous sentez bien, il faut le faire en conscience, parce que vous allez transmettre une part de vous-même dans cette pâte. Deuxième point, vous achetez une farine qui est vivante, donc pas un sac qui traîne dans les placards depuis 3 mois, parce qu'une farine, il faut savoir qu'au bout déjà de 1 mois et demi, elle a dû perdre quasiment 50% de ses ferments sauvages, et ce sont eux qui vont être responsables du développement fermentaire, de l'arôme, du goût, etc. Donc vous allez acheter une farine fraîche, vous regardez sur l'étiquette qu'on vous a pas vendu un truc qui est là dans les rayons planqué depuis 2 mois, et pas besoin de matériel compliqué, c'est pas la peine de vous acheter une machine à pain ou de mettre ça dans un robot. Un saladier, vos mains, une eau tiède comme un bain de bébé. Au début, le levain, c'est vraiment quelque chose de très compliqué. Vous pouvez faire du très bon pain uniquement à la levure. Vous achetez ça dans une biocoop, c'est une pâte un peu marron. Vous mettez l'équivalent pour un kilo de farine d'un petit pois. Je dis bien un petit pois, ça fait moins de 2 grammes. Et vous utilisez une eau qui est tiède comme un bain de bébé. Vous ne devez pas vous brûler, ça ne doit pas être froid. Si c'est froid, c'est hypoglycémie. Si c'est chaud, ça va être la fièvre. Vous voyez, c'est comme un être humain. Et vous mélangez avec vos patounes là pendant 5 minutes. Et au bout de 5 minutes, dès lors que vous n'avez plus de farine, vous laissez reposer, vous couvrez avec un linge. Vous allez laisser reposer une première fois 50-55 minutes. Vous allez faire ça 3 fois. La 4e fois, vous donnez encore un petit tour de 15 secondes. Et vous mettez ça au frigo pendant 24 heures. Le lendemain, vous sortez votre pâte, vous la boulez, vous la laissez lever et vous la cuisez. Alors, je ne vais pas donner des conseils de température parce que chaque four est différent. Mais globalement, essayez de cuire en fournée à 240 degrés et vous coupez le four, enfin vous le descendez à 190-200, et pour 1 kg de farine, vous mettez en gros 700 g de flotte, 18 g de sel, et ça va cuire, on va dire, 40-45 minutes. Voilà.
Le conseil de Christophe Vasseur. Et vous, Alex Roquet, votre truc en plus ?
Ah non, mais tout à fait raison de pétrir. Je vais vous donner une anecdote. J'avais une jeune fille qui voulait ouvrir une boulangerie au sud de Bordeaux. Elle avait déjà acheté un peu de matériel et elle avait peu de connaissances. Elle est rentrée dans mon atelier avec ses farines anciennes et je dis, on va pétrir à la main. Et elle me fait, ah bon? Et je dis, tu vas gagner 6 ans. Parce que quand tu regardes pétrir, c'est avec tes yeux. Tandis qu'avec tes mains, tu as une relation directe avec la pâte et tu touches la pâte. Et après, tu vas être touché par la pâte. Et quand tu es touché par la pâte, ça y est, tu as compris. Et c'est tout l'intérêt de pétrir à la main. Moi, les gens, surtout pas de batteur, pétrissent à la main.
Quel plaisir de pétrir à la main, hein, Marie Astier.
Ah oui, moi j'adore ça. La pâte, elle vous dit ce dont elle a besoin. Hein. On voit les moments où il faut la replier, les moments où elle se détend, les moments où on peut la façonner, enfin... Voilà, après, bon, moi j'en ai fait beaucoup longtemps, du pain à la maison, ça prend du temps. Et j'avoue que je suis très heureuse parce qu'il y a plusieurs bons boulangers qui ont apparu autour de chez moi ces dernières années. J'ai retrouvé le bon pain.
On n'a pas retrouvé Muriel qui est sans doute en train de sortir son pain du four. J'espère qu'il est bon, ma chère Muriel. Merci à tous, hein. Merci beaucoup Christophe Vasseur.
Merci
du pain et des idées, c'est votre boulangerie à Paris. Merci à Alex Croquet, on peut déguster votre pain au Fou du Pain à Lille et à Vatigny. Merci Marie Astier. Quel pain voulons-nous ? C'est disponible en poche chez Reporter. Merci beaucoup Arnaud Cocol. Vous reviendrez pour parler de votre livre consacré au végétarisme. Et merci beaucoup Abdou Gnaba. Toute la bibliographie est disponible sur l'appli et sur le site de France Inter.